avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, victoire absolue et sans surprise de la coalition au pouvoir en Éthiopie. Les accords de paix enfin finalisés au Mali. Peut-on être optimiste ? Un activiste anticorruption jeté en prison au Tchad. Le spectre de l'épidémie Ebola menace toujours la Guinée. Enfin, le reggaeman Tikenja Fakoli, refoulé de la RDC. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel+. Restez avec nous. L'émission par la Corne de l'Afrique en Éthiopie, victoire absolue mais sans surprise de la coalition au pouvoir. Plus de détails avec Michel Joseph.
En obtenant 546 des 547 sièges de la Chambre des représentants du peuple au Parlement, le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, remporte une victoire sans appel. Cette coalition de quatre grands partis qui dirigent l'Éthiopie depuis 1991 remporte 500 circonscriptions, 46 autres sièges se répartissant entre des petites formations régionales qui lui sont alliées. Ces élections sont les premières depuis la mort en 2012 du premier ministre Meles Zenawi, qui avait incarné le pouvoir en Éthiopie depuis le renversement de Mengistu Haïlé Mariam, chef de la junte qui dirigea l'Éthiopie durant la Terreur rouge entre 1974 et 1991. L'un des principaux partis de l'opposition éthiopienne, le parti Sema Yawi, avait dénoncé fin mai un déni de démocratie après l'annonce de résultats provisoires montrant que le PRDF s'acheminait vers une victoire écrasante. Symbole de la famine dans les années 1980, le pays affiche désormais une croissance économique de 10% selon la Banque mondiale. Des ONG de défense des droits de l'homme dénoncent un développement économique à marche forcée dont les populations locales et l'environnement paient le prix fort. Mais également le caractère autoritaire du régime, les atteintes à la liberté d'expression et la volonté d'étouffer toute voix dissidente.
Nous sommes au Mali pour notre dossier. Après des semaines de négociations et de suspense, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a finalement apposé sa signature sur le texte entériné le mois dernier par Bamako et une partie des communautés du nord du Mali. La CMA a été le dernier mouvement rebelle, Touareg, à ne pas avoir signé l'accord de paix. Avec cette signature, le groupe armé s'est engagé à mettre un terme au conflit déclenché en janvier 2012. Les rebelles n'ont cependant pas obtenu l'indépendance de la région qu'ils ont renommée Azawad. Pour faire le point, Morgane Guiriec, 543210. Pour faire le point, Morgane Guiriec a joint Idriss Fall, notre envoyé spécial à Bamako.
D'abord, c'est la mise en place d'un comité de suivi de l'accord, composé de la médiation des différents groupes armés sur le terrain, de l'amunissement, plusieurs pays, notamment les États-Unis et des institutions, qui a même tenu sa première réunion le lendemain, juste après la signature. Donc, ce comité de suivi, comme son nom l'indique, devra suivre la mise en œuvre qui sera laborieuse de l'accord de paix, et ils le savent. Il y a un volet désarmement, il y a un volet développement, il y a un volet sécurité, il y a un volet humanitaire, et toutes ces parties devront envoyer des représentants dans ces quatre sous-commissions pour en fait faire des propositions et qu'à l'intérieur de ces sous-commissions, on trouvera en fait des accords par consensus. Donc ça, c'est la première difficulté. Je crois que l'ONU, l'Algérie, les États-Unis et même le gouvernement malien savent que ce sera un travail de longue haleine.
Reste-t-il des sujets épineux?
La première chose, c'est de rétablir la confiance. En des gens qui se battent depuis 2012, sinon même depuis plus de 50 ans, parce que le Mali a connu des rébellions depuis son indépendance, beaucoup de membres du comité de suivi pensent que plus le pas a été franchi, c'est même avec des difficultés de les mettre ensemble pour qu'ils acceptent de se parler. Et là, c'est un premier pas. Ibrahim Boubacar Keïta, le président, dès la soirée, a organisé un grand dîner avec les anciens. anciens rebelles. Ce qui est un geste assez fort pour dire, en fait, nous allons rompre le pain ensemble dans ce mois de Ramadan. Ce qui est un début quand même assez encourageant. Comme eux-mêmes le disent, l'engagement est pris, en fait, d'essayer de résoudre les différences par le dialogue, faire taire les armes. Je crois que ce sera la première bataille à gagner pour que les gens puissent discuter ensemble pour régler les autres questions épineuses. Qui va intégrer l'armée malienne, des forces de sécurité locales, qui va les intégrer. Bon, sous l'aspect du développement, il y a de grands projets de développement de régions du Nord. Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé même la construction peut-être d'une route allant de Bamako à Gao. Beaucoup de projets d'écoles et de dispensaires, mais tout ça, il faut de l'argent. Parce que sans développement aussi, les crises vont perdurer. Sans développement aussi, la méfiance qu'il y a entre les communautés du Nord va aussi rester parce que tout ceci se fonde et s'enrichit sur la base de la pauvreté la plus crasse qu'il y a dans le Nord du Mali.
Idriss Fall, envoyé spécial à Bamako. La signature de ces accords de paix a été très attendue, espérée par beaucoup de citoyens maliens. Comment les populations du Nord Mali ont-ils vécu ce moment? Comment voient-ils, imaginent-ils ce processus de paix? Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
La CIM a accepté signer le document de paix et de réconciliation au Mali le samedi dernier à Bamako devant la communauté internationale. À Gao, nous avons tendu notre micro à certaines personnes. Les avis restent partagés.
C'est d'abord une réaction de joie et d'allégresse. Joie pour tout le monde, ça vous le savez déjà. Des remerciements à l'endroit de tout le monde.
On est content, on veut qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas qu'ils restent derrière la ville avec les armes. Ils n'ont qu'à revenir, on est prêt à les pardonner. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler ensemble. On est content de l'accord aussi.
Je suis très content de féliciter Sema avec son effort parce qu'il a signé les accords de la paix. C'est très beau vraiment. Bah, déjà, le Mali a été payé, pardonné. Mali pardonne tout le monde.
Les autres, quant à eux, restent encore perplexes.
Bon, ils ont signé l'accord, mais on n'a pas vu la peine d'abord. Parce que jusqu'à présent, ils ont leurs armes avec eux. Pour avoir la peine, il faut que on voit les gens, chacun part là où il vient, là où il vient. C'est en ce moment-là qu'on est d'accord et on est content qu'il y aura la paix. On a confiance lorsque la paix est respectée. Ils vont déposer les armes, on va revenir des frères comme avant, on va les pardonner.
Personnellement, je n'ai pu comprendre un seul instant au cours de cette cérémonie d'hier l'absence marquée du numéro 1 du MNLA, Bilal Ag Ashérif. La paix, à mon sens, n'est pas un simple slogan, c'est plutôt un comportement. Le préalable pour nous aujourd'hui, c'est la cessation des hostilités et que le drapeau du Mali flotte partout sur la République, de Kidal à Menaka, en passant par Abeibara, Tinsako, Aguelhok, Bé, Gargando, Tinecha, etc.
Pour le troisième groupe interrogé, cette signature de l'accord de paix ne doit pas faire oublier les nombreux crimes perpétrés, ça et là.
On a signé d'accord, mais pour qu'il y ait cette paix que nous souhaitons, il faut que cette justice soit rendue d'abord, pour qu'au moins on se réconcilie et que nous soyons un et indivisibles. Parce qu'il y a eu des violations, il y a eu beaucoup de crimes. Tant qu'il n'y a pas la justice, personne n'aura confiance à son prochain.
D'où cet appel au gouvernement malien et à la communauté internationale.
Le gouvernement malien doit prendre aussi ses responsabilités et respecter ses engagements. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes du CAI à Kidal, sans exclusive. À la communauté internationale également, nous demandons de jouer pleinement sa partition, sans parti pris. À ce prix, nous nous engagerons à les accompagner pourvu que la paix soit chez nous.
En tout cas, le plus dur reste encore à venir pour les 16 millions de Maliens qui doivent se réconcilier avec l'accompagnement de la communauté internationale. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Celle Plus sur VOA Afrique et sur le 101.7 FM à Gao, sur la radio à Adar, Coïma. Direction le Tchad, où les autorités montrent leurs muscles ces derniers jours. Djiralar Miankeol, membre de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, est détenu depuis le 15 juin à Moundou, dans le sud du pays. Son association Gaou Burundi lutte contre l'accaparement des terres des agriculteurs. Il est poursuivi pour outrage à magistrat et dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé dans une interview à la radio la corruption des magistrats dans le domaine foncier. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Pirus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition Trop, c'est trop.
En fait, c'est des problèmes liés aux problèmes de conflits d'agriculteurs, des nouveaux riches qui accaparent des terres au niveau des sud, qui achètent des terrains, semble-t-il, pour leur bétail. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Lui, comme son organisation est en train de lutter dans ce sens, et comme ça qu'il a dû dénoncer ce phénomène qui sévit ces derniers temps. Et non seulement à Niamey, mais il se trouve que, ce phénomène qui sévit un peu partout autour de Niamey, tout le long du fleuve Chari, etc.
Qui sont derrière ce phénomène?
Ce qu'on sait, c'est que les études ont démontré que c'est des généraux qui arrachent ces terres, les propriétaires de bétail. En fait, on le met dans le vocable global des nouveaux riches qui apparaissent ces derniers temps. Il y a les autorités administratives, il y a les généraux de l'armée et tous qui ont de l'argent qui achètent des terres. On ne sait pas dans quelle vision, mais c'est comme ça que ça se passe.
Quel est cet aspect du rôle des magistrats que dénonce l'activiste Ndjira Lar?
Souvent, les propriétaires terriens se plaignent auprès des autorités, ils ne trouvent pas bien de cause. Et ils sont souvent encouragés pour porter l'affaire devant la justice. Malheureusement, de ce côté-là, ils ne trouvent pas aussi bien de cause. Comme vous le savez, les gens, ils ont de l'argent, donc la justice, ces derniers temps, n'est rendue qu'en faveur de celui qui a l'argent. Et comme ça qu'on présume que les magistrats sont corrompus et l'affaire le plus souvent est rendue en faveur de ceux-là qui achètent des terres.
Que disent les autorités nationales à ce sujet?
Le phénomène a été dénoncé non seulement par le responsable de l'association Gabrandi, mais les associations de défense des droits de l'homme de manière générale ne cessent de le dénoncer, mais il n'y a pas de suite. Malgré les différentes assises et malgré les séminaires qui sont organisés, il n'y a pas de réaction énergique tendant vraiment à combattre ce phénomène. Donc, c'est ça qui, quelquefois, fait qu'on considère les autorités administratives d'être elles aussi complices de ce phénomène qui se passe.
Pyrrhus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition Trop, c'est trop au Tchad.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Épidémie Ebola, le virus n'est toujours pas éradiqué en Guinée. L'urgence sanitaire a été prorogée jusqu'à fin juin en raison de la persistance de l'épidémie. Le point avec le coordinateur médical Ebola pour la Guinée de Médecins Sans Frontières, Anna Alford.
Comme toujours avec l'Ebola, les histoires sont toujours un peu plus nuancées qu'il est facile de présenter. Actuellement, on observe sur la totalité du territoire un plateau dans le nombre des cas. C'est-à-dire qu'à la dernière semaine épidémiologique, à savoir la semaine 25, on a totalisé 12 cas pour tout le pays. La semaine auparavant, il y avait, sauf abus de ma part, il y avait 10 cas et 12 cas la semaine avant. Donc on n'est pas en train d'assister, d'observer ni une recrudescence, ni une baisse dans le nombre des cas. Par contre, nous voyons qu'il y a des sous-zones du pays, les régions ou bien les préfectures, où il y a des flambées par rapport aux autres préfectures. Donc le total reste plus ou moins le même, mais les foyers, ça change.
Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le terrain?
Ce qui nous inquiète le plus sur le terrain sont les problématiques autour d'un bon recensement des contacts et le niveau de connaissance que nous avons, que nous arrivons d'avoir sur des chaînes de transmission de la maladie. Tant que nous n'avons pas des connaissances à peu près bien sur les chaînes de transmission, on ne peut pas dire que l'épidémie soit sous contrôle et on n'est pas encore arrivé.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu du mieux, que les populations ont été sensibilisées et qu'aujourd'hui, elles font plus attention, notamment si quelqu'un est malade?
Je crois qu'il y a parfois une distance entre les informations dont la population a besoin et l'information qui est donnée. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à bien communiquer les priorités auprès de la population, notamment sur les comportements à avoir en cas de maladie, sur les dispositions qui sont là pour s'il y a quelqu'un qui est malade ou qui est récemment mort. Le message, c'est vraiment, il y a beaucoup d'efforts, il ne faut absolument pas baisser les bras ni changer la manière d'aborder la chose, même si le nombre des cas reste statico pour l'instant. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus en épidémie. On l'est toujours et on doit continuer à l'aborder cela comme si c'est une urgence.
Anna Alford, coordinateur médical Ebola pour la Guinée de Médecins sans frontières.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça.
Rubrique culture pour terminer l'émission. Le refoulement à l'aéroport de Kinshasa du célèbre chanteur de reggae ivoirien Tikenja Fakoli vendredi dernier a fait beaucoup de bruit dans le milieu artistique sur le continent. Il devait chanter dans la capitale congolaise après avoir donné un concert à Goma en février dernier devant 15 000 personnes. Écoutons-le au micro de Roger Muntou dans le RM Show de VOA Afrique.
Je ne pensais pas que ça allait dans un pays africain quand même, parce que voilà, sur le continent africain, ça fait longtemps que nos parents, nos ancêtres ont parlé de l'unité africaine, Lumumba, Kwame Nkrumah. Voilà, on ne pensait pas que ça allait arriver en 2015, sur tout ça. Voilà. Moi, je pense que c'est une censure, simplement. On a eu peur, peut-être, du reggae, qui est une musique d'éveil de conscience, qui est une musique qui a décidé, en tout cas, de prendre position voilà, depuis Bob Marley. Et donc, je pense qu'on a simplement eu peur du reggae, parce que nous étions le seul groupe reggae dans tous les groupes qui devaient aller pour ce festival. Vous savez, c'est la République démocratique du Congo, hein, ça veut tout dire. Un pays démocratique, ça veut dire liberté d'expression, ça veut dire voilà, respect de tous les citoyens. Donc je pense que voilà, nous on allait chanter, on allait peut-être s'exprimer, mais ça veut pas dire qu'on est contre qui que ce soit.
C'était le chanteur de reggae ivoirien Tikenja Fakoli dans un extrait du RM Show sur VOA Afrique.
Il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel du voile Africa. 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 Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leurs propres mains voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps enfin que s'envole notre destin.
C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la technique, Georges Léonard Sagno. Nous nous quittons en musique avec, bien sûr, Tikenja Fakoli et son dernier appel. Bonne soirée et bonne nuit.
L'avion va décoller. Mes frères, mes soeurs, vous êtes tous invités.
cet avion, pas de passeport, aucun papier n'est demandé. Seulement votre volonté de voir ce continent sauvé.